Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal du 7 heures. Linda Christelle Ballier.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition sur Radio de la Paix. Au sommaire, la première session 2024 de l'Assemblée nationale qui s'achevait hier a vu l'adoption en plénière de 4 projets de loi à l'unanimité des députés présents. On en parlera avec notre reporter Junior Cardin. Et clap de fin pour le 3e sommet panafricain des jeunes des 54 pays d'Afrique. Une convention suivie d'un forum sur la paix et la sécurité sur le continent ont mis fin à ce sommet vendredi dernier, nous apprend Jean-Claude Mabéa que nous aurons dans ce journal. Et puis dans l'actualité sur le continent, l'Assemblée nationale sud-africaine se réunit vendredi prochain pour élire le futur président. Et puis Francis Cassis fera un tour d'horizon des unes de vos journaux parus ce mardi. Ce sera dans la revue des titres. Après quoi, l'invité de la rédaction, Dr Bogas Sako-Gervais, président de la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie publique, se prononcera sur la loi modificative du code pénal adoptée récemment par l'Assemblée nationale. Un entretien qui sera mené par Soro Adams. Voilà pour nos grandes lignes. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, les 4 derniers projets de loi de la session 2024 ont été adoptés en plénière hier lundi à l'unanimité des députés présents. C'était sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Adama Bick Togo. Suivons donc ce récit de Junior Cardin pour en savoir un peu plus.
Il s'agit de 2 projets de loi portant code de déontologie, exercice de la profession infirmière et de la profession de sage-femme hémaïticien, et 2 projets de loi de ratification dont l'un porte sur l'orientation du transport intérieur et l'autre sur la réforme des impôts sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères. Sur le premier projet de loi, il ressort que le nombre d'infirmiers traduits devant la justice est grandissant pour comportement désobligeant, d'où ce nouveau code d'éthique et de déontologie pour corriger cet état de fait et lutter par la même occasion contre les personnes exerçant cette profession alors qu'elles n'en ont pas la qualité. Le projet de loi portant profession de sage-femme et maïticien édicte les règles fondamentales pour l'exercice de cette profession. Tout comme la profession infirmière, il est également demandé aux sages-femmes et maïticiens d'instaurer une bonne collaboration entre eux. Ces 2 projets de loi prévoient 1 à 5 ans d'emprisonnement et 1 à 5 millions d'amendes pour quiconque s'adonne à l'exercice de ces professions sans en avoir la qualité. Les 2 autres projets de loi de ratification d'ordonnance traitent l'un, la question et l'organisation de l'autorité de régulation du transport intérieur ARTI et l'autre, la fusion des 3 impôts sur le revenu en un prélèvement unique. Par ce mécanisme, l'État dit soulager les travailleurs et retraités en subissant des pertes d'une valeur de 39 milliards de francs CFA. La première session de l'Assemblée nationale se clôture le vendredi 28 juin prochain après le congrès annoncé pour se tenir le mardi 18 du même mois.
Merci à vous, Junior Cardin, pour tous ces détails. Une 15aine d'organisations, dont le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, reproche dans une déclaration commune à la Commission électorale indépendante de mener actuellement l'opération de cartographie électorale, tout en excluant tous les partis qui n'y ont pas de représentants. Écoutons à ce propos le président du comité électoral du COGEP, Zogbo Boiseau Francis, joint par Francis Cassis.
Nous la dénonçons parce que elle n'est pas consensuelle. Elle ne prend pas en compte l'aspiration des partis politiques qui ne sont pas représentés dans cette CEI. Par exemple, laquelle nous avons décidé de faire une déclaration, une 15aine de partis politiques et des syndicats. C'est d'amener le gouvernement à créer les conditions pour que tous les partis politiques soient associés véritablement sur ce processus-là.
Mais la cartographie électorale, ça veut dire quoi?
C'est le processus qui permet d'identifier les nouveaux lieux de vote et les bureaux de vote. Faire en sorte que cette structure-là soit actualisée de sorte à ce que, au regard de la population ivoirienne, on puisse voir si on doit augmenter ou pas. Donc, c'est d'identifier des nouveaux lieux de vote.
Donc, il faut que tous les partis y participent, selon vous?
C'est ce qui est normal. fait en sorte que tous les autres partis politiques soient associés à ce processus-là. On apprend que des sous-préfets rencontrent des mouvements de la société civile sans que les partis politiques ne soient véritablement associés. Véritablement, je pense que ce processus qui est en cours là est déjà biaisé dès le départ. Je constate qu'un processus est en cours qui prend en compte le corps préfectoral et les autres partis politiques qui siègent à la CEI. Moi, mon parti politique, le COGEP, n'est pas associé. C'est ce que nous dénonçons. Donc, je crois que le corps préfectoral peut être là, mais il faut prendre en compte aussi les autres partis politiques.
Vous écoutez Zogbo Boiseau Francis, le président du comité électoral du COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Et puis à Yamoussoukro, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a organisé le week-end dernier un séminaire de redynamisation du prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche, séminaire ayant réuni les membres du jury de ce prix. En ligne donc de Yamoussoukro, Emilia O.
Instauré depuis 7 ans, le prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche a besoin d'un souffle nouveau, explique le professeur Jean-Noël Loukou, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.
Chers membres du jury, nous avons accompli un cycle qui assure la pérennité du prix. Il nous faut maintenant un renouvellement positif et la journée de réflexion devrait vous permettre de faire des suggestions, des propositions pour redynamiser ce prix. Nous sommes à votre écoute et nous donnerons une suite immédiate et favorable à vos réflexions.
Des réflexions qui ont d'ailleurs porté sur diverses thématiques que nous, professeur Niamke Kofi, président du comité scientifique.
Nous allons avoir un projet de médiatisation de ce prix. Ensuite, nous ouvrons aussi le prix à d'autres disciplines. Nous avons aussi l'intention de susciter des sponsoring du prix, mais surtout, c'est de faire en sorte que la dotation du prix soit motivante.
À propos de motivation de la dotation du prix, professeur Jean-Noël Loukou a annoncé séance tenante.
D'ores et déjà, nous avons décidé de doubler le montant des récompenses accordées aux lauréats. La prime de session des membres du jury passe à 300 000 francs pour chaque membre. Et nous mettrons à disposition 4 millions pour la gestion et la promotion du prix.
L'objectif nouveau à assigner à ce prix est de renforcer ses capacités, a fait savoir professeur Babiouzan Daniel, président du jury. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Le rideau est tombé sur le 3e sommet panafricain des jeunes des 54 pays d'Afrique le 7 juin dernier à Abidjan. 4 jours durant, les délégués membres du G54 Afrique ont réfléchi autour du thème « Un avenir panafricain inclusif », la ZLECAF et le MAEP au service de la jeunesse. Et ce, à travers des panels et des travaux en atelier à Yopougon et au Plateau. Une convention suivie d'un forum sur la paix et la sécurité en Afrique a mis fin à ce sommet. Nous dit Jean-Claude Mabéa.
Le coordonnateur général du G54 Afrique s'est félicité du déroulement de ce 3e sommet panafricain des jeunes des 54 pays d'Afrique. Assim Saba.
Selon moi, le bilan est très satisfaisant parce que les délégués se sont donnés à fond. Les délégués ont fait une déclaration officielle sur le MAEP et la ZLECAF. Ils veulent mettre ensemble leurs forces pour pouvoir participer à l'atteinte des objectifs de MAEP et de la ZLECAF. Également, les délégués ont décidé de fédérer les forces en créant un réseau panafricain de la société civile qui va exercer également dans l'atteinte des objectifs de MAEP et de la ZLECAF.
Ce rendez-vous d'Abidjan a donc tenu toutes ses promesses à en croire Joseph Ilunga de la République démocratique du Congo.
J'ai le sentiment du devoir accompli parce que voir aujourd'hui les jeunes s'intéresser aux questions de la zone économique continentale de libre-échange, de la question sur le mécanisme africain d'évaluation par le pair, prouve l'engagement, cette cohésion de nous jeunes Africains, que notre solidarité est en train de s'affermir pour produire des effets escomptés.
Et l'enseignant-chercheur au département de philosophie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, Michael Nyang Akba Akpro.
Je suis venu pour écouter, pour voir le niveau du débat sur la question et puis dans mes publications, dans mes recherches, mes enseignements aussi, les vulgariser pour amener la jeunesse estudiantine à pouvoir s'approprier ces mécanismes par rapport aux opportunités qu'elles offrent.
À noter qu'un plan d'action stratégique a été adopté au cours de la convention qui a précédé ce forum.
Et si le 7 juin s'achevait le troisième sommet des 54 pays d'Afrique, le samedi 8 juin, la Conférence nationale des directeurs de publication de Côte d'Ivoire tenait son quatrième congrès qui a vu l'élection de Terracidi Assey en qualité de nouveau président de la CNDPCI pour une durée de 5 ans. Terracidi Assey est le directeur de publication du journal L'Essor Ivoirien. On l'écoute sur les grands axes de son programme à la tête de cette conférence.
Un sentiment de joie qui m'anime. Et ce qui fait la particularité, n'est-ce pas, de ce congrès, où les représentants des différents organes pro-RHDP, pro-FPI, pro-PPACI, IDPCI et PDCI, tout le monde était à ce congrès, donc ça a donné un cachet particulier à mon élection.
Quelles seront donc vos priorités?
La CNDPI doit avoir un siège fonctionnel avec du personnel permanent. C'est plus urgent que tout. Et la CNDPCI doit se projeter également et se repositionner auprès des institutions et des partenaires. Et la CNDPCI doit s'approprier également directement la défense des intérêts des directeurs de publication toujours vilipendés qu'ils prennent chaque fois devant les juridictions ou des fautes professionnelles. Ces points relevés font partie de notre programme d'activité que je vais mettre en pratique avec l'ensemble des collègues et des confrères.
Vous écoutiez Terracidi Assey, directeur de publication du journal L'Essor Ivoirien, mais également nouveau président de la CNDPCI, la Conférence nationale des directeurs de publication de Côte d'Ivoire. Sur le continent, les 400 députés élus aux législatives en Afrique du Sud se réunissent vendredi prochain au Cap lors d'une première session à l'Assemblée nationale et doit se conclure avec l'élection du prochain président de l'Afrique du Sud. La première séance de l'Assemblée nationale se tiendra vendredi 14 juin à 10h heure locale et 8h en temps universel, a déclaré le président de la Cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays, cité lundi dans un communiqué du ministère de la Justice. Pour rappel, en Afrique du Sud, les électeurs choisissent leurs députés selon un système de liste à la proportionnelle. Et la nouvelle Assemblée nationale élue désigne ensuite le président de la République. Et donc, sauf surprise, le prochain président sud-africain devrait donc être désigné et connu vendredi 14 juin 2024. Dans l'actualité internationale, au lendemain des élections européennes, l'Europe se retrouve face à une nouvelle donne politique avec un Parlement dominé par la droite, mais qui enregistre une très forte poussée de l'extrême droite. En France, Emmanuel Macron a annoncé à la surprise générale la dissolution de l'Assemblée nationale dimanche, après donc la victoire écrasante du Rassemblement national de Jordan Bardella. Plus de détails avec Paul Bénédicte Bolou.
Le président de la République française, Emmanuel Macron, a annoncé le dimanche 9 juin dernier la dissolution de l'Assemblée nationale et cela à la suite des résultats des élections européennes où son camp a été largement dévancé par la liste du Rassemblement national conduite pour ces européennes par Jordan Bardella, réélu et avec lui une trentaine d'autres eurodéputés RN, pendant que la liste de la Renaissance conduite par Valérie Ayé ne remporte qu'une dizaine de sièges au Parlement européen. Cette victoire qui sonne comme un avertissement des Français à Emmanuel Macron a poussé donc le président français à prendre une décision qui n'est pas sans risque, à savoir la dissolution de l'Assemblée nationale. Les Français sont donc appelés à élire de nouveaux députés dans 3 semaines, le 30 juillet et le 7 juillet prochain. C'est un scrutin législatif à fort enjeu dont on ne présage pas des résultats. Au-delà de la France, à quoi ressemblera le prochain Parlement européen qui passe de 705 à 720 pour cette mandature 2024-2027. Eh bien, selon les projections, la droite et la gauche, les deux principaux groupes parlementaires européens, stabilisent leur position de première et seconde force politique quand l'extrême droite réalise une percée en se positionnant comme la voie eurosceptique. Outre ces trois blocs idéologiques, il faut compter aussi avec les autres, notamment les groupes libéraux et écologistes, qui sont pour cette mandature en perte de vitesse, mais avec des résultats un peu plus enviables que le groupe de la gauche considéré comme le plus petit groupe politique au Parlement. Pour rappel, pour former un groupe politique au Parlement européen, il faut réunir au minimum 23 députés issus de 7 pays différents.
La revue des titres des journaux parue ce mardi 11 juin est l'affaire aujourd'hui de Francis Cassis et nous l'accueillons à ce propos. Bonjour Francis.
Bonjour Linda, bonjour à tous. Vos journaux continuent de donner leurs avis sur le nouvel article 185 récemment adopté par l'Assemblée nationale. C'est par ce sujet que nous ouvrons leur revue des titres de ce mardi. Vers un étouffement de la liberté d'opinion, c'est en ces termes que le quotidien d'Abidjan qualifie l'adoption de ce nouvel article dans l'attente de sa promulgation. Allant dans ce même sens et se voulant plus précis, Génération Nouvelle, lui, titre « Débat télévisé sur la modification du code pénal, le complot contre Gbagbo mis à nu ». Ce sur quoi renchérit la voix originale titrant « Article 185 nouveau, l'aveu cinglant du RDR-HDP, Meïté Ben révèle le sombre dessein du régime. Cet alinéa est contre Laurent Gbagbo et le PPACI. » Cependant, c'est un mauvais procès que l'on fait à cette nouvelle loi, note pour sa part l'expression disant « Affaire modification de l'article 185 du code pénal. La tentative de manipulation de l'opposition mise à nu. » Quand Gbagbo ramène tout à sa personne. Avant que ce voulant très clair envers tous ceux qui ruent dans les brancards contre cet article 185, le matin n'écrive sentencieux. Réforme du code pénal, article 185, cette loi sera promulguée et appliquée dans toute sa rigueur. Activité des partis politiques à présent, avec 500 chefs de communauté ont échangé hier avec Thiam, le nouveau réveil annonce que tout baigne actuellement pour le PDCI. Mais ne voyons pas les choses exactement comme ce confrère, le sursaut dit. PDCI-RDA, Jean-Louis Billon, le grand saut dans l'inconnu, ce qu'il prépare. Entre-temps, au sujet de l'enthousiasme des militants du RHDP pour la candidature du président Ouattara à la présidentielle 2025 au nom de ce parti, le rassemblement semble tempérer les ardeurs avec ceci. Ouattara candidat ou pas en 2025, pourquoi le RHDP doit s'attendre à tout? Le chef de l'État face à un dilemme. Pour la candidature de Laurent Gbagbo, à cette même échéance électorale, le PPACI a un plan, selon l'Inter qui indique. Présidentielle 2025, tout savoir sur la stratégie du PPACI. Et puis, à tous ceux qui croient que, après Gbagbo et Blegoudé jugé et acquitté, la Cour pénale internationale va poursuivre son jugement sur la Côte d'Ivoire par rapport à la crise post-électorale de 2010-2011, le patriote apprend. Après 14 ans d'enquête et de procédure, la CPI ferme le dossier ivoirien. Terminons notre revue des titres de vos tabloïds de ce 11 juin avec le quotidien Le Soir ivoirien qui, quant au match pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de football de la Côte d'Ivoire contre le Kenya ce jour, joue la carte de la prudence en annonçant un match piège attend les éléphants. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci à vous Francis Cassis pour cette revue des titres. Signalons que vous serez de retour dans l'édition de 8h pour le même exercice. Et nous bifurquons sur cette dernière articulation de notre édition, l'invité de la rédaction, Dr Bogas Akou-Gervais, président de la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et la vie publique, se prononce sur le dossier du vote de la loi modificative du code pénal ivoirien qui a été récemment votée, débattue et votée à l'Assemblée nationale. Il répond aux questions de Soro Adams.
Bonjour, docteur Bogas Akou.
Bonjour, cher ami Soro Adams.
Il y a eu, le 6 juin 2024, à l'Assemblée nationale, le vote de l'article 185 du Code pénal de votre pays, la Côte d'Ivoire. Vous êtes à la tête d'une ONG. Alors, quelle est votre réaction face à ce texte?
D'abord, je veux dire qu'on n'a pas besoin forcément d'être juriste pour s'intéresser à la loi, parce que la loi s'impose à tous les citoyens. C'est pour cela que lorsque le Parlement vote une loi, une disposition nouvelle, il faut toujours en informer le peuple, car le juge dira demain que nul n'est censé ignorer la loi. Pour que la loi s'applique à moi, il faut me l'expliquer. Donc la première observation que je fais en vous donnant ma réponse, c'est qu'il ne suffit pas de voter des lois, mais il faut tout faire pour que les lois soient sues et connues par le justiciable, avant que le juge ne frappe avec les sanctions, avec les peines. Première observation. La deuxième, c'est que à chaud, la disposition qui a été votée a trait à la vérité, à un certain nombre de crimes de fait que la loi veut sanctionner. Notamment, ils ont parlé de l'apologie de la violence, l'apologie du terrorisme, l'apologie des casses, des choses comme ça. En clair, si un homme politique, par exemple, ou un citoyen appréciait, soutenait, félicitait des casses ou bien des destructions de biens d'autrui, etc., il est passible de certaines peines. Et l'opposition avait souhaité que tous ces délits-là, tous ces faits-là, on en extrait le côté politique. Autrement dit, dans le cadre politique, cela ne devait pas être. Or, l'opposition a été déboutée et le texte a été voté. Le danger qu'il y a là-dedans, en tant que militant des droits de l'homme, est-ce que cette disposition-là ne restreint pas la liberté d'expression et la liberté d'opinion du citoyen? C'est là le danger. Parce qu'il ne faut pas que l'État nous fasse voter des lois qui restreignent les libertés des populations. Ce n'est pas normal. Parce que l'Assemblée nationale est censée représenter le peuple. Or, le peuple a besoin de liberté. Le peuple a voté des dirigeants. Mais si ces dirigeants-là, ils ne se comportent pas comme il faut, le peuple a le droit, lui, propriétaire exclusif du pouvoir en démocratie, a le droit de critiquer le dirigeant.
Et donc, vous êtes d'accord avec l'opposition qui dénonce cette loi?
Je suis d'accord avec le citoyen. De telles lois ont tendance à brimer le peuple et à l'empêcher de s'exprimer. Personne ne peut dire « je salue un coup d'État, j'applaudis une insurrection, j'applaudis ». Non, ce n'est pas possible. Mais en même temps, laisser le peuple s'exprimer librement. Et prendre une telle loi, c'est un peu comme si on nous menaçait de ne plus critiquer, surtout quand nous sommes à la veille d'élections. Il faut éviter cela. Moi, je pense que nous sommes dans un pays libre, dans un État de droit. Si vous prenez quelqu'un avec une arme en train de s'attaquer aux institutions de la République, oui, là, c'est concret. Mais penser, exprimer son point de vue, mon cher, vraiment, je ne suis pas d'accord que ce serait cela. Le citoyen qui dit qu'il est d'accord ou qu'il n'est pas d'accord, c'est son droit le plus absolu. Donc, en conclusion, selon nous, cette loi ne devrait pas être, car vraisemblablement, elle tend à restreindre les libertés des citoyens. Dans la société où nous sommes, dans l'État de droit où nous sommes, les faits punissables sont connus. Si quelqu'un enfreint à la loi, si quelqu'un prend les armes contre la République, il sait ce qu'il attend. Mais quant à analyser ou donner son point de vue, ce n'est pas un crime. Le crime, ce n'est pas celui qui analyse, celui qui donne son point de vue. Le crime, c'est le criminel qui l'a commis, c'est lui qui doit répondre devant la loi.
Les journalistes sont-ils plus ou moins menacés dans cette affaire?
Mais absolument. Il y a une autre loi qui ressemble un peu à celle-là. C'est comme on dit, désormais, si vous dénoncez les détournements public, vous êtes passible d'une peine. Tout ça, ça tend à restreindre les libertés et même à encourager la corruption. Au contraire, même, on devait encourager les populations à dénoncer les corrupteurs. De la même manière, on doit encourager notre presse à dénoncer ce qui n'est pas conforme à la loi, ce qui n'est pas conforme non plus à la démocratie, ce qui n'est pas conforme à l'esprit républicain.
Donc, musellement, selon vous...
Exactement, musellement des libertés, musellement des citoyens. Et restriction de la démocratie. Alors qu'on s'est battu pour qu'on ait la liberté de penser, de s'exprimer. On s'est battu. Le monde entier s'est battu. Et la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer. Mais avec ces dispositions-là, on régresse au regard des principes universels. Désormais, le journaliste, avant d'écrire, il va se demander est-ce que si j'écris ça, on ne va pas m'arrêter sous prétexte. C'est pas normal.
Et comment voyez-vous l'avenir de cet article 185 du Code pénal de Côte d'Ivoire?
Maintenant, je pense que les opposants peuvent toujours introduire un amendement. Une loi est peut-être votée, mais une loi peut-être amendée. Et puis même une loi, on peut aussi l'abroger. Donc, en tout état de cause, ça peut rester pour un temps, mais pas indéfiniment.
Je vous remercie, Dr Boga Sakho.
C'est moi qui vous remercie, M. Sourat.
C'était Dr Boga Sakho Gervais, président de la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie publique. Invité de la rédaction, il répondait aux questions de Soro Adams. Et voici ce qui met fin à notre édition, le rappel de l'essentiel. Hier lundi, les quatre derniers projets de loi ont été adoptés en plénière à l'Assemblée nationale à l'unanimité des députés présents. Et pour le clap de fin, pour le troisième sommet panafricain des jeunes des 54 pays d'Afrique, une convention suivie d'un forum sur la paix et la sécurité ont mis fin à ce sommet. Vendredi dernier, nous a appris Jean-Claude Mabéa. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, 8h.
Radio de la Paix.